Avec l'action évangélique de Pentecôte, on est un petit peu, j'allais dire, tout feu dehors. On est en train de dresser un petit peu tous les champs missionnaires, tous les besoins. Ils se multiplient, ils sont nombreux. La détresse est de partout, surtout pour nos frères et sœurs dans la foi. Il y a l'Ukraine, certes. Je veux vous dire ce matin et vous remercier pour ce que vous faites, ou ce que vous allez faire, ou ce que vous avez fait. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais la collecte qui a été lancée au niveau du mouvement, au travers de l'action évangélique de Pentecôte pour aider en Ukraine, a permis de récolter à ce jour 125 000 euros. 125 000. Ça continue d'arriver tous les jours. Les églises attendent la fin du mois, entre autres Richter, on va envoyer début avril. Donc ce n'est pas la fin, il va y en avoir d'autres. On a déjà pu débloquer 40 000 euros. Pour venir en aide dans les premiers besoins, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements chauds, puisqu'il y a encore la neige. Mais sachez en tout cas qu'on a pu aider même un orphelinat. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sunshine. Vous allez sur Facebook, vous le trouvez, Sunshine en Ukraine. C'est un orphelinat qui est une œuvre sociale qui regroupe les évangéliques d'Ukraine, les pentecôtistes, les baptistes, etc. Donc, ils ont cette œuvre sociale en commun, à travers desquels ils reçoivent les orphelins d'Ukraine. Donc, ils ont aidé. Ils étaient domiciliés au niveau de l'aéroport de Kiev. Et quand les bombes sont tombées, j'ai une vidéo, je la ferai passer à votre pasteur, il vous la montrera. Quand les bombes sont tombées, les responsables de cet orphelinat, dont un homme qui s'appelle Marek, un frère, les a pris dans la voiture et il est parti. Et les bombes tombaient à droite, tombaient à gauche. Alors, ces enfants étaient déjà traumatisés. Il faut savoir qu'il y a un accompagnement qui était fait avec eux, parce que depuis des années, tout cela, il y avait des problèmes, des difficultés, et ces enfants étaient traumatisés. Donc, ils ont fait tout un travail aussi d'accompagnement. Mais avec ce problème de la guerre, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Tout est reparti en arrière. Ils sont obligés de reprendre à la base tout le travail, tout en les mettant à l'abri. Alors, il en a pris un certain nombre. Il est passé au milieu des soldats. Alors, il y a la vidéo, on les voit passer quand les soldats se mettent à terre, quand ils contrôlent, vous savez, quand ils soupçonnaient que des soldats russes, en civil, entraient, s'infiltraient pour essayer de saboter. Donc, on voit les images quand ils passent au milieu de cela, quand il y a des soldats ukrainiens qui arrêtent des voitures, contrôlent, vont mettre au sol des potentiels espions russes, etc. Donc, c'est très traumatisant pour eux. Donc, aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux se retrouve en Suisse et a été pris en charge par des frères et sœurs évangéliques pour les aider un petit peu à repasser un petit peu le cap. Donc il y a un travail qui est fait, mais ce frère est reparti à la frontière. Il faut savoir que sur 3 millions de réfugiés, vous l'avez entendu aux informations, c'est 1,5 million d'enfants. C'est énorme, 1,5 million d'enfants. Mais cet orphelinat qui est à Kiev, à côté de l'aéroport, malgré les bombardements, n'a pas été détruit encore. Et les familles qui sont là, il faut savoir qu'il y a encore pas mal de population à Kiev. Il y a déjà aussi pas mal d'enfants orphelins, en plus de ceux qu'il y avait. Ils ont été amenés à l'orphelinat, et déjà l'orphelinat est bondé, plein d'enfants, de mamans. Donc ils avaient le projet de redescendre à Kiev pour pouvoir essayer d'en sauver un plus grand nombre encore. Donc on lui a dit qu'on allait prier pour lui. Dans pas longtemps, on l'aura à nouveau en Zoom. Il passe via la frontière polonaise-ukrainienne. Donc il y a un travail qui est fait. On essaie d'être au plus près. La semaine dernière, ces deux frères de l'AEP, Claude Huot, que vous connaissez, qui est déjà venu ici, et le pasteur Stéphane Minger, qui sont partis de suite via la Roumanie. Ils sont allés à la frontière. Ils sont même rentrés en Ukraine, à plus d'une quarantaine de kilomètres. Ils sont allés dans les églises évangéliques. Alors, les programmes des églises sont complètement chamboulés. Il n'y a plus la sortie ADN, ça n'existe plus. Il n'y a plus le GIB. Il n'y a plus même de réunions comme nous en avons ce matin. Les églises se transforment en lieu de vie. C'est des matelas qui sont mis par terre dans les salles pour faire dormir les enfants, les femmes qui sont là, les personnes âgées. Les lieux de culte comme le nôtre ce matin se transforment en réfectoire. Ils y mangent. Et c'est ainsi que l'église fait face à la situation. Alors, ils ont des moments spirituels différents de ce qu'on a aujourd'hui, nous, de ce qu'on connaît, de ce qu'ils connaissaient. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu change le mal en bien. Et je crois de tout mon cœur que Dieu encore est à l'œuvre et il se sert même de l'atrocité des hommes pour en amener un plus grand nombre à sa connaissance. Je le crois. Et nous voulons prier dans ce sens-là. Ça, c'est un aspect. Et je vous invite vraiment à continuer de prier. Je ferai passer les vidéos à votre pasteur. J'aurais pu les prendre ce matin, mais je n'ai pas voulu tout mélanger. Donc, il vous le fera tranquillement à une soirée. Il vous montrera les choses Comme ça, vous en prendrez un peu plus connaissance et conscience, peut-être, même si vous l'entendez au niveau des informations. Sachez en tout cas qu'il y a une fraternité, il y a une main d'association entre les chrétiens de Roumanie, de Pologne évangélique, d'Ukraine. Et un travail est fait, non seulement pour venir en aide à la population, mais pour apporter un témoignage dans ce qu'on est et dans ce qu'on vit et dans ce qu'on est capable d'apporter à notre prochain. Alors, ce n'est pas des grandes réunions d'évangélisation, mais l'Église est présente. Et on peut prier pour eux, on peut demander à Dieu toute sa grâce pour qu'au travers de ces moments-là, eh bien, Dieu console les cœurs, panse les plaies et en amène plusieurs à le rencontrer. En même temps, on relève le défi de vouloir toujours aller un peu plus loin parce qu'il y a des enfants dans le monde entier. Et vous savez qu'au niveau de la pauvreté, la moitié de ceux qui sont considérés comme étant atteints par la pauvreté, ce sont des enfants dans le monde. Et l'Église, c'est aussi des enfants. Et avec l'AEP, ou plus exactement l'ASEP, nous parrainons 1300 enfants. Mais notre objectif, c'est toujours d'aller un peu plus loin. Et là, on a le projet, on s'est réunis. On a été sollicité pour le Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est quand même pas facile. Hein. Mais avec la grâce de Dieu, via les chrétiens du Bangladesh et le pasteur Azakin, on va pouvoir ouvrir une maison de jeunes filles à Karachi. Karachi, c'est un port au sud du Pakistan. Le Pakistan, c'est frontalier avec la région du Gujarat où se trouve Saint Maloné. Si vous avez entendu parler de Saint Maloné. Donc à Karachi, pourquoi Karachi? Parce qu'à Karachi, il y a un bidonville qui est plus grand qu'à Bombay même. Vous avez entendu parler du bidonville de Bombay? C'est énorme. Quand vous atterrissez à Bombay ou à Mumbai, si vous le disiez en anglais, mais vous atterrissez, vous passez juste au-dessus du bidonville quand vous arrivez. Mais à Karachi, il est encore plus important. Et dans ce pays du Pakistan, les personnes les plus vulnérables, ce sont les jeunes filles. Elles n'ont pas droit à l'éducation. Elles sont parfois enlevées. Elles sont là dans la rue. Non pas qu'elles sont prostituées, mais elles n'ont rien à faire puisqu'on ne leur permet rien. Mais la volonté de l'ASEP, de l'AEP, des pasteurs que nous sommes, c'est de permettre à ces jeunes filles d'avoir un avenir. Alors, il n'y a pas si longtemps que cela, sur Richter, on a parlé de tout ça, et j'ai été réjoui de voir qu'une trentaine de frères et sœurs se sont portés candidats pour parrainer ces enfants-là, ces jeunes filles-là. Alors, je le mets sur votre cœur parce que c'est très important que de ne pas regarder simplement à notre niveau, d'élargir peut-être un peu plus l'espace de notre tente et de considérer qu'ailleurs, avec pas grand-chose, on peut sauver une vie, on peut sauver un enfant, on peut sauver une fille, une jeune fille, et leur donner le privilège d'étudier, d'avoir un bagage, de pouvoir s'en sortir de la misère dans laquelle elles sont. Et pourtant, elles sont dans un pays où ce n'est pas facile. Mais malgré tout, on veut leur tendre une main et on veut œuvrer. Alors vous allez prier pour ça, pour que ce projet soit mené jusqu'au bout, à son terme, et que ça soit le début de quelque chose de plus grand encore. Alléluia. L'objectif, c'est d'y aller. Au mois de juin, je partirai à Cuba. Pendant 15 jours, avec le pasteur Niasounou Mahulolo de Villefranche-sur-Saône, c'est le centenaire des Assemblées de Dieu. 100 ans que les Assemblées de Dieu existent à Cuba. Eh oui, hein ? Ils sont plus nombreux que nous en France. Ils sont deux fois plus de pasteurs que nous dans les Assemblées de Dieu en France. Et malgré tout, vous savez qu'il y a l'embargo, qu'ils sont dans une grande pauvreté. Cela fait des années, 2-3 ans, qu'on se retrouve avec des sommes mises à part pour eux, pour leur venir en aide. Et on ne peut pas l'acheminer. Alors vous allez prier pour qu'au travers de ce déplacement-là, on ait l'occasion de leur apporter cette aide. Je ne sais pas comment. Hein. Vous allez me dire comment on fait. Ben, des fois, on a de l'argent sur nous, on passe. c'est pas simple, c'est pas évident. Ça fait partie de l'Église persécutée. C'est comme ça. Des fois, c'est l'Église souterraine. On ne peut pas faire des virements. C'est bloqué, c'est fermé. Donc, il faut quand même qu'on arrive à les aider. Alors, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, mais vous allez prier pour qu'on y arrive et que Dieu fasse qu'on apporte une assistance, un soutien de la part des églises et des chrétiens de France. Parce qu'on est simplement vos représentants. Hein, et on veut, avec la grâce de Dieu, être là. Alors, il y aura le congrès des pasteurs des Assemblées de Dieu de Cuba qui seront là. Je devrais prêcher à ce congrès. Alors vous allez prier pour moi parce que déjà en y pensant, j'ai les genoux qui se rencontrent d'affection fraternelle. Ouais. Et je me dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce parce que bon, il va bien falloir y arriver. Donc on va y arriver. Donc on va y aller tous les deux. On sera traduit par le pasteur Louis Martinez que vous avez reçu ici aussi, donc vous le connaissez. Et on va, avec la grâce de Dieu, ben, non seulement assister à ce congrès, mais aussi tourner dans les églises sur toute l'île. essayer d'encourager nos frères et nos sœurs et de leur apporter une aide appropriée. Voilà, ça c'est quelques nouvelles comme cela. Il y en a d'autres. Il faudrait que je vous parle du Gujarat, il faut que je vous parle des projets des Bibles au Tibet, du Bhoutan, où on doit retourner avec un projet Bible. Il y a une multiplicité de projets. Pendant 2 ans, on a été à l'arrêt à cause du Covid. Et la pauvreté, les difficultés que rencontrent nos frères et sœurs se sont accentuées. Imaginez-nous, 2 ans après, le masque, les contraintes et tout, les drames que cela fait parfois dans les couples, dans les familles, le fait d'être isolé, ces choses qui font que parfois même on a été impacté psychologiquement par tous ces éléments-là. Alors imaginez nos frères et nos sœurs, là où ils se trouvent, dans le Gujarat, et je vais terminer avec cela, ils n'ont pas encore réouvert les églises. Les temples hindous sont réouverts, mais pas les églises. Alors comment ils fonctionnent ? Ben, ils ont multiplié des réunions de maisons. Ils ont 600 et quelques, presque 700 réunions de maisons qu'ils ont organisées sur tout le territoire. Ils ont des centaines et des centaines de conversions à tel point qu'ils nous ont dit « Venez-nous en aide, financez-nous des Bibles. » Donc on va financer 10 000 Bibles là, qui vont leur être envoyées. Et on va aller sur le terrain après pour voir un petit peu le cheminement. Comme quoi, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. On peut fermer nos murs, mais on ne peut pas empêcher à la parole de Dieu d'être annoncée et de gagner des cœurs et de toucher des vies. Alléluia. Alors, priez pour eux, hein, pour Sam Maloney, que Dieu le fortifie. On a des projets avec lui, avec le Gujarat, avec le Bhoutan, le Népal. Pourquoi le Népal ? Parce qu'il y a beaucoup de diaspora tibétaine et on a un projet de distribuer des nouveaux testaments en tibétain, de semer la parole de Dieu. Alors, il nous faut passer par le Bengale. C'est des parcours un petit peu rocambolesques. C'est 10 heures d'avion pour Bombay. C'est 4 heures d'avion pour aller à Bagdogra. C'est 4 heures de voiture pour monter à Jaïgon. Et puis, c'est encore 4 heures de voiture pour monter sur les chaînes de l'Himalaya. C'est tout ce trajet pour simplement voir des frères et sœurs. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce que c'est motivant quand on est sur le terrain ? Et je voudrais vous entraîner avec moi pour que vous ayez la même motivation. Alléluia. Allez, j'arrête de parler parce que sinon, on ne va parler que de ça. Hein. Allez, on va ouvrir la Bible. Dans l'évangile de Jean. Chapitre 16. Je vais rester très simple et très pratique avec vous ce matin. De toute manière, je ne sais pas faire différemment. Donc, ça tombe bien. Jean 16, verset 13. Je retiendrai dans ce verset une particularité qui va nous servir un petit peu de base pour nourrir notre réflexion. Je crois de tout mon cœur que ce qu'on a besoin plus que jamais, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de nous laisser conduire par ce même Esprit. Pas au gré de nos pensées, hein, ni de nos lubies, de nos idées, mais rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la force du croyant, c'est ce qui doit faire la force d'une église. Alors on le lit ensemble, ce sont des paroles du Seigneur. Il a dit ceci, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Retenez avec moi cette simple particularité-là, il vous conduira. Conduire dans le grec, c'est guider. On peut s'imaginer, quand on est conduit, vous avez été conduit par quelqu'un pour venir à la réunion, sauf si vous avez été le conducteur ou la conductrice. Mais on vous a conduit, on vous a guidé, on vous a amené. On va y revenir d'ailleurs sur cette expression-là du verbe amener. Mais on a été conduit, guidé. Mais je crois que ce que Dieu veut par son esprit, c'est nous conduire à tous. C'est nous guider. Pourquoi ? Parce que nous, on est sujet à l'erreur. On est sujet à se tromper. Vous avez les uns et les autres certainement un jour cheminé avec le GPS en face de vous, sur votre téléphone ou sur votre genou. Ça, c'est moins bien, mais c'est un peu moi des fois quand je roule. Donc, on a le GPS parce qu'on ne veut pas se tromper. Et bien, des fois, il ne nous suit pas au rythme où on va. Et on dit, mince, on a raté l'embouchure, on a raté le croisement. Alors, il faut attendre qu'il recalcule pour retrouver notre route et aller à notre destination. Ben, ça nous arrive à nous. Mais le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Dans le fait de nous diriger, de nous conduire, il ne se trompe pas. Et vous avez remarqué avec moi, entre ce que nous percevons des choses, ce que nous ressentons, la sensibilité qui est la nôtre. Tu ne m'entends pas ? Vous ne m'entendez pas ? Si, il n'y a que toi qui n'entends pas. Ils ne le disent pas. Qui c'est qui ne m'entend pas ? Personne ne le dit. Hein ? D'accord. Ça va être dur parce que j'ai l'impression d'avoir un truc là, c'est un fait bizarre. Hein ? Bon, bref. Allez, le croyant que nous sommes, l'Église que nous sommes, on est appelé à marcher en étant conduit par le Saint-Esprit. La vie chrétienne est vraiment une marche. On ne reste pas stationnaire. On ne reste pas là simplement avec des acquis en se disant, bon ben voilà, hein, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1921, et puis depuis, gloire à Dieu, ça marche. Non, il faut toujours aller plus loin. Il faut marcher. On part d'un point A, on va vers un point B. Le point B pour nous, c'est le ciel. Alléluia. Et entre les deux, on marche. Et on marche conduit par le Saint-Esprit. On ne marche pas de n'importe quelle manière. On ne marche pas au gré de nos envies. On ne marche pas au gré de nos passions. On ne marche pas au gré de nos idées. Sinon, au bout du compte, on va se retrouver un jour face à un mur et on va se poser bien des questions, tomber dans une forme de culpabilité ou de frustration et se poser la question mais j'y comprends plus rien. Peut-être c'est ce que vous avez dit un jour. Je ne comprends pas ou je ne comprends plus ce qui m'arrive. Mais je crois qu'on a tout intérêt, les uns et les autres, à vivre par l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu est en nous, mais à marcher aussi par le même Esprit qui nous a été donné. Alléluia. On n'est pas né de nouveau simplement pour être appelé enfant de Dieu. On n'est pas né de nouveau pour simplement venir à l'Église. On n'est pas né de nouveau simplement pour lire sa Bible, prier, être gentil autour de nous. On est né de nouveau pour être de ceux qui marchent sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Alors il faut se le rappeler les uns et les autres, Dieu veut nous diriger, il veut nous conduire par le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand il est écrit dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Le tableau est clair, la feuille de route est tracée, on ne peut pas marcher différemment. On marche selon l'Esprit ou on marche selon la chair. Il n'y a pas 40 solutions, c'est soit l'un, soit l'autre. Qui veut marcher par la chair ? Non, il n'y a pas de candidat. Ah oui, on a commencé par l'Esprit, on ne veut pas finir par la chair. On a commencé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché, de justice, de jugement, selon ce que Jésus dira dans le même chapitre qu'on a lu ce matin. Et parce qu'il a mis en nous son Esprit, par lequel nous pouvons crier « Abba Père », nous voulons aussi marcher selon cet Esprit. Et il prend les choses où, le Saint-Esprit ? Au Seigneur Jésus, dans la parole de Christ. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui va inspirer un petit peu notre manière de penser et de voir. Ça ne peut pas venir de n'importe quelle manière, ni de n'importe qui. Ça vient de Christ, ça vient de la parole de Christ, et l'Esprit de Dieu prend de ce qui est à Christ, il nous l'annonce, il prend de ce qu'il est, il prend de ce qu'il dit, et il nous le communique. Alléluia. Pour que nous marchions selon ce même Esprit. Alors, je le dis, et j'en fais une introduction avant d'aller un peu plus loin, l'Esprit de Dieu peut nous diriger dans une voie ou une orientation bien particulière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va y revenir même cet après-midi. Philippe, quand même, a été dirigé dans une orientation particulière. Oui ou non, dans Acte 8, c'était particulier. Ananias, qui s'entend dire, va voir Paul et impose-lui les mains, c'est particulier. D'ailleurs, il va hésiter quand même au départ. Parfois, l'Esprit de Dieu peut agir d'une manière spécifique, d'une manière particulière. Mais notez quatre axes qui me semblent importants de rappeler en introduction. L'Esprit de Dieu peut nous diriger en exerçant sur nos vies ou sur nos cœurs une certaine discipline, même dans l'Église. Je pense à Ananias et Saphira qui s'étaient ensemble entendus pour garder une partie du champ et en donner qu'une autre partie en le déposant aux pieds des apôtres. Quand ils sont devant Pierre et que Pierre révèle qu'il a menti et qu'ils ont menti, à qui ? Au Saint-Esprit ? Le résultat de leur mensonge, c'est qu'ils tombèrent l'un comme l'autre, morts. Et la crainte de Dieu s'est emparée de toute l'assemblée. L'Esprit de Dieu peut agir d'une manière particulière. Et quand il nous conduit, il peut exercer une certaine discipline. On n'aime pas trop, nous, ça. Mais on est quand même des disciples. Un disciple, il a une vie disciplinée. Ce n'est pas un légaliste. Ce n'est pas un laxiste. C'est un homme sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est une femme sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. La deuxième facette, c'est que le Saint-Esprit, quand il conduit les choses, quand il dirige les événements, il peut désigner parfois des personnes particulières. Acte 13, quand ils sont là en train de jeûner, il est dit « mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre là. Il peut aussi empêcher d'aller dans certaines directions. On y reviendra tout à l'heure dans le développement, quand Paul, dans l'exercice de son ministère, en visitant les églises, n'a pas pu aller dans une direction où il voulait aller, et l'Esprit de Dieu le conduira différemment. Je peux vous assurer que, me concernant, je n'avais pas trop envie de venir à Montpellier. Je suis né à Montpellier, donc je n'avais pas trop envie d'y venir. Je ne voulais même pas revenir dans le Languedoc-Roussillon, parce que j'y ai grandi, quand j'y suis parti. Je connais la mentalité de ceux qui sont chez moi, je connais la mentalité de ceux de ma région. Et je dois vous dire que des fois, notre mentalité à nous, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais quand je reviens à notre contexte-là, je me rends compte aussi que le Saint-Esprit peut nous amener, en nous conduisant, à prendre des décisions pour la vie de l'Église. Il nous conduit. Quand ils sont confrontés aux viandes sacrifiées, aux idoles, etc., dans le Concile de Jérusalem, dans Acte 15, il est quand même dit qu'ils écriront, il a paru bon, au Saint-Esprit et à nous. On voit que les actes des apôtres sont plutôt les actes du Saint-Esprit que les actes des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui bâtit, qui conduit, qui dirige, qui reprend, qui censure, qui exhorte, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église en convaincant les cœurs et les vies. Je crois que s'il faut dresser un plus grand tableau que celui que je suis en train de vous dresser ce matin pour vous faire comprendre qu'une Église, un croyant qui passerait à côté de la dimension du Saint-Esprit passe à côté de grandes choses, alors je ne sais pas comment vous le présenter davantage dans cette introduction. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est la voie du vrai bonheur. Alléluia. C'est la plus belle des choses qui peut arriver à un homme, à une femme, quand il y aspire, quand il le désire. Pourquoi ? Parce que la Bible martèle, et c'est l'apôtre Paul qui le dit quand il parle aux Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel privilège ! Par ce même esprit, nous crions Abba Père, mais par ce même esprit, nous sommes conduits parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est le privilège des enfants de Dieu que d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Non, vous n'êtes pas trop enthousiaste ce matin. Mais bon, c'est écrit ou c'est pas écrit? Eh oui. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit encore aujourd'hui, qui nous anime, qui nous pousse, qui nous presse aux uns et aux autres? Et vous savez que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh oui. Alors moi, ma motivation ce matin, c'est de vraiment vous encourager, vous donner l'envie, si ce n'est un peu plus encore, de vouloir être non seulement sensible à cet esprit en étant rempli, mais de vous laisser conduire un peu plus par lui. De lui laisser la place pour qu'il puisse œuvrer dans votre vie, vous amener là où il veut vous amener. D'une manière personnelle, mais aussi d'une manière collective, en parlant de l'Église du Seigneur. Alors pour cela, je voudrais m'arrêter avec vous sur cet épisode de Jésus lors de la tentation. Jésus a été conduit. C'est l'exemple suprême, le Seigneur, oui ou non? Eh oui. Si on porte nos regards sur Jésus, on est sûr de ne pas se tromper. Lui ne se trompe jamais. L'Écriture nous montre que lui aussi a été conduit. On a lu ce matin dans Jean 16 que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Quand Jésus parle à ses disciples, à ce moment-là, il leur dit que dans un peu de temps, il ne sera plus avec eux. Il sait, le Seigneur, qu'ils vont connaître derrière des moments difficiles, des moments particuliers. Ils vont connaître la tristesse, ils vont se sentir abandonnés, ils ne vont plus rien comprendre, ils vont oublier même le sens des paroles de Jésus qui parlait de sa résurrection. Il y a bien des choses qui les déstabilisent et on évite de déstabiliser quand même les uns et les autres. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, on est tous pareils. Il suffit simplement que les choses s'accentuent un peu et nous perdons pied. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et je me rends compte, si vous me le permettez, en portant les regards sur le Seigneur, que lui aussi s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, en simple homme qu'il était sur la terre des hommes. Alors on ne va pas le lire, mais je vais le décrire avec vous ce matin. Dans Matthieu 4, verset 1er, dans Luc 4, verset 1er, et dans Marc 1, 12, 13, il est question de la tentation du Seigneur. Je reciterai les versets qui m'intéressent sur les trois. Et pourquoi je cite ces trois versets dans ces trois évangiles-là, ces trois moments qui ne sont qu'une même histoire? C'est parce que dans ce qui est dépeint, au travers des verbes qui sont employés, il y a des facettes qui sont mises devant nos yeux pour nous permettre peut-être de comprendre un peu plus, d'une manière un peu plus profonde, de quelle manière le Seigneur a été conduit par le Saint-Esprit. Pour que nous comprenions que tout disciple accompli sera comme son maître et que si le Seigneur a été conduit d'une telle manière, il faut s'attendre à être conduit aussi d'une telle manière. Quand je parle de la tentation du Seigneur, permettez-moi de vous dire la chose suivante. Jésus a été tenté après son baptême. Baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe et il est dit « alors, aussitôt », c'est-à-dire l'instant d'après, il va être conduit, dirigé dans le désert où il sera tenté. Avez-vous remarqué, souvent après le baptême, c'est là que commencent certaines difficultés. Il n'y a rien d'anormal au fait de connaître après le baptême des moments où l'adversaire va essayer, d'une manière ou d'une autre, de nous replacer sous sa coupe pour qu'à nouveau nous soyons là, sous sa domination à lui. C'est là que l'exemple de Jésus résonne avec beaucoup de force pour chacun d'entre nous, pour nous rappeler que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous sommes face à l'adversaire capable de résister, mais bien plus, nous sommes vainqueurs sur ses tentatives de nous détourner. C'est dans ce contexte-là que les chrétiens que nous sommes sont capables d'être d'authentiques vainqueurs. Nous avons entendu et nous lisons souvent que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors portez avec moi les regards sur Jésus et comprenez deux points avant d'en arriver sur ces trois versets. Le premier, c'est que Jésus, comme un simple homme, devait connaître la tentation. Nul ne saurait se soustraire. Tous on est tenté et on sera tenté d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le fait d'être tenté qui fait de nous des hommes qui ont transgressé, qui sont pécheurs. C'est de céder à la tentation. Mais Jésus, comme un simple homme, devait connaître la tentation. Et il ne s'y est pas soustrait. Ce n'est pas dérobé revendiquant sa nature divine. Il s'est laissé conduire. Et il a accepté de connaître un tel moment. Je me rappelle un jour, il y avait un certain collègue. Vous savez, quand on est dans le... Je ne sais pas Manu, toi, mais moi, en tout cas, c'était comme ça. Quand je suis rentré dans le ministère, je ne peux pas dire que j'ai toujours vécu des bons moments. Hein. En formation, des fois, on avait quand même des pasteurs d'un certain âge, ils nous roudoyaient. Hein. Ils ne nous caressaient pas. Moi, je vois mon stagiaire aujourd'hui, je suis gentil avec lui en comparaison. Hein. Je ne lui fais pas ce qu'on m'a fait. Hein. Parce que des fois, c'était pas... Hein, ton formateur, il était brave, toi. Attention à ce que tu vas dire, parce que sinon... il y a des fois... Et je me rappelle qu'un jour, je discutais de ça avec quelqu'un qui rentrait dans le ministère et je lui disais, ça va, tu n'es pas des fois découragé, tu t'en sors. Et il me répond, mais avec le Seigneur, ça va toujours. Je lui disais, mais c'est bien, si ça va toujours, c'est bien. On en reparlera un peu plus tard, c'est bien. Comme ces chrétiens qui nous disent, avec le Seigneur, on ne pleure jamais. Ça va toujours, on ne pleure jamais. Tout va bien avec le Seigneur. Mais je m'excuse, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas du tout. Et il n'y a rien de rabaissant ou d'humiliant de ne pas aller bien un jour. Heureusement qu'Élie a demandé la mort, hein, parce que sinon, parce qu'il se sentait tout seul. Heureusement que l'apôtre Paul a laissé Trophime malade à Milet, parce que sinon, on aurait des applications nous, qui seraient un petit peu déformées. L'écriture est équilibrée et je me dis que ce dont on a besoin, ce n'est pas d'être, vous savez, plein de slogans, avec des paroles toutes faites, se mettant en avant en disant ceci ou cela. Restons humbles et laissons le Seigneur par son esprit nous conduire, nous remplir et nous conduire. C'est ça dont on a besoin, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Jésus, comme un simple homme, a été tenté. J'aime ce texte de l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 18 ou 4, 15, si vous prenez vos notes. Il est dit ceci, « Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ben merci Seigneur, hein, de ne pas être soustrait à la tentation qui arrivait, parce que tu peux me secourir aujourd'hui quand je suis tenté. Je ne suis pas seul. Il a même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hébreux 14, 15, il est dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il peut me secourir et il peut compatir quand je passe par la tentation. Et si l'Écriture est claire pour montrer la compassion qui est la sienne, l'Écriture me montre aussi comment Jésus y a fait face, en étant rempli et en se laissant conduire. Il n'y a pas d'autre moyen, avec la parole de Dieu comme arme, pour faire face à la tentation. D'autres moyens seraient superfétatoires et certainement nous plongeraient dans bien des désillusions. Le deuxième point, c'est le suivant. Jésus, comme un simple homme, ne s'est pas soustrait au fait d'être éprouvé. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement il est conduit dans le désert, mais il est question de jours et d'un nombre qui est avancé, qui est le nombre 40 jours. 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. Le désert, de par sa structure, nous montre que ce n'est pas un lieu facile. Les deux associés nous montrent de quelle manière Jésus, après avoir été baptisé et rempli du Saint-Esprit, sera éprouvé comme simple homme en étant tenté par le diable. Vous savez, la Bible est sage dans ce qu'elle nous dit. Il y en a parfois, ils confondent vitesse et précipitation. Il y a un frère, moi, qui veut rentrer dans le ministère. Il n'y est pas encore rentré, qu'il se voit déjà sur l'estrade en train de prêcher, et qu'il se voit, et je lui dis, mais Dieu prend son temps. Ta responsabilité à toi, c'est de t'efforcer d'être sensible à son esprit, rempli, disposé, disponible, le servant de tout ton cœur, dans les moindres comme dans les choses les plus importantes, mais d'être fidèle dans toutes ces choses. Et au moment de Dieu, Dieu ouvrira une porte, et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et au travers de ces temps-là, Dieu éprouve, l'Église éprouve, les anciens éprouvent, et peuvent apporter oui ou non un témoignage s'il y a là réellement quelqu'un qui a un appel. Jésus lui-même ne s'est pas soustrait au fait d'être éprouvé en tant qu'homme qu'il était avant d'exercer après le ministère qui sera le sien. D'ailleurs, reconnaissez avec moi qu'il va être éprouvé, il va en sortir vainqueur et que de suite après, qu'est-ce qu'il nous est raconté dans les récits des évangiles si ce n'est qu'il manifesta sa gloire, sa puissance et que ses disciples crurent en lui et que des hommes et des femmes de la même nature que vous et que moi passèrent de la mort à la vie, goûtèrent à la puissance de Dieu, puissance de vie, transformatrice, et puissent confesser les uns et les autres que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Il me dit, il a fallu ce temps-là. Quand je lis, par exemple, pour les diacres, quand Paul écrit à Timothée, qui est un jeune pasteur, il leur dit, qu'on soit diacre ou diaconesse, diacre et diaconesse, ceux qui servaient aux tables, sont capables dans l'administration, etc., dans l'Église, d'apporter un service, il dira qu'on les éprouve d'abord. Montre que tu aimes ton église locale. Sois présent dans ces rassemblements. Montre que tu aimes tes frères et sœurs quand ils ne sont pas bien pris pour eux, mais prends des nouvelles d'eux. Montre l'intérêt que tu portes à l'œuvre de Dieu quand à un moment donné, un défi est placé devant toi et qu'il faut le relever. Et peu importe si on te voit ou on ne te voit pas, mais que tu sois éprouvé d'une telle manière dans ta fidélité, dans ton sérieux, dans ta constance, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. C'est ce que dit Paul. Et qu'ils l'exercent, regardez bien, s'ils sont sans reproche. Et nous, on a tendance un petit peu à tirer les choses vers le bas. Mais le niveau, il est quand même là encore. Et il reste là. C'est le niveau établi dans les Écritures. Et nous voulons, avec la grâce de Dieu, dire, Seigneur, mais au point où j'en suis, je ne vais pas, vous savez, mea culpa, m'en prendre à moi-même, me dévaloriser. Non, non, ce n'est pas ça. Seigneur, je veux tendre vers la perfection. Je veux progresser. Je veux arriver à cette stature-là. Je veux faire des progrès avec toi. Me voici devant toi. Alors, Seigneur, je me tiens dans la prière. Je me tiens dans la méditation de l'Écriture. Je viens vers toi parce que ce que je veux, c'est être conduit par toi. Alors, entrons maintenant dans ce qui m'intéresse ce matin. Dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit de la manière suivante. Matthieu 4, 1. Alors, après son baptême et avoir été rempli du Saint-Esprit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le verbe dont il est question, c'est le verbe « emmener ». Dans le grec, c'est le verbe « anago ». Entre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, ce n'est pas le même verbe qui est employé. Comme pour nous montrer que dans ces trois verbes-là, dans ces trois récits-là, il y a une complémentarité qui est intéressante dans la compréhension d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Anago, ça veut dire porter, ça veut dire conduire vers le haut, ça veut dire faire monter. On voit bien quelque chose qui s'élève. Mais il y a une autre image qui est employée, qui est associée à ce verbe qui est embarqué, c'est-à-dire faire voile, prendre la mer, gagner le large. Ces deux images associées peuvent nous faire penser, à juste titre, que malgré le fait que l'Esprit de Dieu conduit Jésus vers le désert, vers la tentation, vers des moments difficiles, l'objectif qui est poursuivi, c'est qu'il aille plus loin, c'est qu'il aille plus haut, c'est que sa gloire soit manifestée. De la même manière, je le crois, l'Esprit veut nous amener, nous conduire parfois, même si on ne comprend pas tout, au milieu de moments très difficiles, des moments où on pleure, des moments où ce n'est pas facile, des moments où on n'a aucune explication. Si ce n'est que conduit par son esprit, il veut nous amener plus haut, il veut nous amener plus loin, il veut nous y porter dans cette direction-là, il veut nous y amener, il veut nous embarquer sur cette barque-là qui n'est pas du tout liée à ce qu'on peut maîtriser, à ce qu'on peut savoir, à ce qu'on peut, vous savez, bien établir. Non, ça dépend de lui, de son onction, de son action dans nos vies et dans nos cœurs. Alors nous, ça nous désarçonne parfois, on est démunis. Parce qu'on n'a pas le pied marin et c'est difficile parfois. Ce n'est pas simple. Et pourtant, il veut nous amener au large. Je pensais dans l'évangile de Luc au chapitre 5, quand Jésus disait « avance en pleine eau ». Il y a des moments dans la vie où l'Esprit de Dieu, au travers des difficultés, veut nous amener au large. Vous savez, il y a un texte qui dit que l'aigle se sert des vents contraires pour voler plus haut. Et moi, je crois que par l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous amener au milieu de difficultés, d'être tentés comme jamais nous l'avons été, éprouvés comme jamais nous l'avons été, dans un seul but, celui de nous amener plus loin, de nous amener plus haut, d'avoir une communion plus grande encore avec lui, une révélation plus forte de sa personne, de sa présence, dans nos vies et dans nos cœurs. Quand même, Jésus sera amené plus haut, oui, plus loin. Un ministère d'un peu plus de 3 ans, ou quand même, jamais homme n'avait parlé comme lui. Jamais on n'avait vu de choses pareilles se faire au sein d'Israël. Oui, il sera amené plus haut. Il montera à Jérusalem. On le livrera, il mourra. On l'élèvera sur la croix, sur le mont Golgotha. Oui, il ira plus haut. Il s'élèvera dans la gloire. Il ira s'asseoir à droite du Père. Et il intercède pour nous encore ce matin. Oui, par l'Esprit de Dieu, même au milieu des moments les plus terribles, même au milieu de la fournaise, la volonté de l'Esprit de Dieu qui nous amène, c'est de nous amener plus haut, c'est de nous amener plus loin. Je réfléchissais à cet aspect-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous donne 2 versets. Je reviens à acte 8, quand il est question de Philippe, c'est quand même un ange qui le mène à descendre sur le chemin, c'est le Saint-Esprit qui lui dit de s'approcher, d'écouter ce qui est en train de lire cet eunuque. On parlera de l'eunuque cet après-midi. Mais quand je pense à cela, je me dis quand même, il est sensible à l'Esprit de Dieu. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. T'entends rien, Manu, ils m'entendent tous. Oui. Moi aussi, je deviens un peu sourd, c'est vrai. Quand ils furent sortis de l'eau, après avoir baptisé cet eunuque, qu'est-il dit? Qu'est-il écrit? Et il est écrit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il enlève. Vous savez, dans le fait d'enlever, dans le grec, huparzo, ça veut dire enlever avec force. C'est le deuxième point qu'on va partager tout à l'heure en prenant Marc. Il enlève avec force la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais faire l'expérience de Philippe. d'un coup, pof, pof, vous êtes à un endroit, à un autre. Vous n'avez pas les embouteillages du centre-ville de Montpellier, pof, pof. Quand vous allez visiter quelqu'un, ça va, hein ? Conduit par l'Esprit de Dieu. Rempli et conduit par... Est-ce que ces expériences-là sont simplement là, relatées pour le passé ? Est-ce que par l'Esprit de Dieu, on n'est pas amené à vivre des choses aussi qui sortent de l'ordinaire que nous connaissons les uns et les autres ? Moi, je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui est capable de nous conduire, d'en vivre des choses qui dépassent ce que nous connaissons à l'ordinaire. Enlevé avec force. Et le bras venu qui poursuit sa route tout joyeux. Cherchez Philippe après. Je l'ai cherché. On ne sait pas où il est. Où l'a amené l'Esprit de Dieu ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il a été enlevé avec force. Je me dis, quelque part, peu importe où on va, peu importe le cheminement, peu importe là où ça va nous amener, ce qui est important, c'est qu'il nous y amène, lui, par son esprit. C'est ça qui est important. Quand il est question de l'image de l'embarcation, d'aller vers le large, je pensais à Ézéchiel 47, quand il est question de cette eau qui sort du trône de Dieu. Qu'à ce moment-là, il est dit qu'il mesura 1000 coudées, il avait de l'eau aux chevilles, puis aux genoux, puis à la taille, et puis l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Je me rends compte qu'il est conduit quand même, enlevé. Il y a l'action de Dieu, il y a l'action du Saint-Esprit qui l'amène toujours un peu plus loin. Je me dis qu'on en a besoin, nous, d'aller toujours un peu plus loin. Par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Je reviens maintenant, je rebondis sur mon deuxième point. C'est l'évangile de Marc. Je vous parlais du parzo qui va dire « enlever avec force ». Et dans l'évangile de Marc, il est dit au verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » C'est plus amené. C'est pousser. Vous avez déjà poussé quelqu'un ? En général, c'est tendre quand on pousse quelqu'un. Il y a une certaine pression qui s'exerce, vous savez. Pousse de là. C'est. Il est poussé. Je réfléchissais et je me disais quand même, dans le grec, ça veut dire ekbalo. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça veut dire forcer quelqu'un à partir. Il y a même en arrière-plan une notion de violence. Ça nous choque ? Mais quand on parle d'une violence, comprenez, ce n'est pas la violence comme nous, les êtres humains, nous l'administrons à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Quand il est écrit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux, et ce n'est pas une violence physique. Ça, c'est la démonstration de cette puissance de Dieu, puissance de vie, puissance d'amour, qui agissant dans nos vies et dans nos cœurs, nous pousse en avant, nous pousse en action. Pourquoi ? Parce que naturellement... On freinerait des deux pieds, parce que naturellement, on n'aurait pas envie. L'esprit a de désirs contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, nous dit l'apôtre Paul. Bien entendu, on n'a pas trop envie d'aller dans cette direction-là. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs en pensant à ce verbe pousser. Pousser par l'esprit dans le désert. Seigneur, tu aurais pu me pousser ailleurs, hein, mais ben, il le pousse dans le désert. Quand vous regardez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21 et au verset 4, vous avez un épisode où Paul a le désir, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit, d'aller à Jérusalem. Et l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, les disciples qui étaient à Tyr, alors qu'il est en train de revenir, à Milet, les anciens d'Éphèse, déjà, ça ne leur plaisait pas trop quand ils apprenaient qu'ils montaient à Jérusalem. Ils étaient attachés à l'apôtre Paul, mais là, quand il est à Tyr et qu'il est en train d'être là avec eux, qu'il partage un moment spirituel, la Bible dit que, poussé par le Saint-Esprit, ses disciples qui étaient là à Tyr disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Dites, quand on le met à l'opposition de l'autre côté, à ce passage où Pierre dit « à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas », et Jésus de lui répondre « arrière de moi Satan, car les pensées que tu as sont des pensées humaines », on se dit, mais mince, c'est tout et son contraire. C'est presque opposable, les deux. Non, en fait, comprenez-le de la manière suivante. Ils ont un moment spirituel et l'Esprit de Dieu. Et nous avons un même esprit. Dépose, révèle, montre aux disciples qui sont réunis là en communion avec l'apôtre Paul que oui, Paul monte et qu'il sera certainement arrêté. Il en a certainement partagé avec eux librement les choses. Mais l'Esprit de Dieu leur montre que c'est dans cette direction que les choses vont. Et ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit qui lui demande de ne pas y aller. Ce sont leurs sentiments. Lequel d'entre nous voudrait donner la main à quelqu'un qui, dont on sait qu'il va vers la mort ou l'arrestation, tout ça, on dirait « Attends, attends un peu, reste avec nous. » Même si au fond de nous, on est convaincu par l'Esprit de Dieu que c'est là la route, c'est là la voie. L'Esprit de Dieu leur montrait bien la voie que prenait l'apôtre Paul. Mais je comprends d'une certaine manière, ils avaient bénéficié de son ministère. Que cet attachement les amenait à dire « Non, attends, reste encore, ne pars pas. » C'est humain tout ça. Mais l'Esprit de Dieu, et nous en avons un même esprit, révélait les mêmes choses que Paul partageait avec les anciens de Milet, les anciens à Milet, poussés par le Saint-Esprit. Vous savez, je réfléchissais, je me disais quand même, ce même apôtre Paul, quand il partage avec ses concitoyens, je reviens à ceux de Milet, à ces anciens-là, il leur dit, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem pour ceux qui m'y arrivera. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Lié par l'Esprit. Nous, on a l'impression, on se dit, oulala, c'est des termes forts, ça. Lié par l'Esprit. Dans le grec, ça veut dire attaché avec des chaînes. Lié par l'Esprit. Sa vie ne lui appartenait plus. C'était pas simplement un verset qu'on cite. C'était pas simplement un chant qui était mentionné. C'était une réalité dans son quotidien. Sa vie n'était plus la sienne. Elle avait été livrée, abandonnée entre les mains de Dieu, et le Saint-Esprit était celui qui le conduisait. Et quand il dit « lié par le Saint-Esprit », voyez-y là un homme qui volontairement s'est laissé comme enveloppé, enchaîné par l'Esprit de Dieu pour être conduit là où certainement, avant d'être rempli, il ne serait pas allé. Voyez-vous, je le crois ça, de tout mon cœur. Je crois que souvent l'Esprit de Dieu, quand il travaille et quand il nous étreint, quand il nous saisit, il y a des choses où des fois on est obligé de dire, si on veut continuer à obéir à Dieu, oui, je vais y aller, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je me rappellerai toujours du témoignage de ce pasteur en Inde qui, à la sortie de la réunion, s'est retrouvé avec une balle, là, un revolver. On a mis le feu, on y a mis le feu, bam, ça y a fracturé la mâchoire, je ne sais pas combien de morceaux. On l'a transféré, il s'est fait opérer, il a des traces, il a des marques. Quand il a fallu qu'il revienne après des mois de chirurgie, les pasteurs de la congrégation lui ont dit, on va vous trouver un poste dans le sud où vous ne risquez rien. Et sa femme a répondu la chose suivante. Cette terre a vu le sang de mon mari versé. Il n'est pas question que nous allions ailleurs. Nous resterons ici et nous continuerons à œuvrer pour le Seigneur tant qu'il nous le demandera. Quand on est comme saisi par l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer même à celui qui est à notre droite ou à notre gauche. Il ne le comprendrait pas. Ce n'est pas du mysticisme. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Pourquoi ? Parce que nous lui avons tout livré, nous lui avons tout abandonné. Et nous allons de l'avant, là où il nous envoie, pour faire son œuvre comme il nous le demandera. L'apôtre Paul savait dans l'appel qu'il avait reçu qu'il souffrirait pour la cause du nom de Jésus. Il le savait. Mais la volonté qui était la sienne, c'était de poursuivre cette course jusqu'au bout, sans s'opposer ni résister à l'Esprit de Dieu qui devait le conduire. Réfléchissez à un autre aspect. Dites-moi, quand vous regardez les apôtres dans la chambre haute, ils sont quand même comme arrêtés, ils sont dans la crainte. Et quand l'Esprit de Dieu descend et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, Pierre est quand même agissant, il est comme poussé vers l'extérieur, il apporte cette première homélie, cette première prédication, mais quel message, quand on le lit, franchement, quand on le lit, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit chez nous, c'est un message simple, mais dans une grande simplicité. Mais quelle onction derrière, des hommes, des femmes convaincus de péché, 3000 ce jour-là, mais je veux dire, Manu, on aimerait bien nous, hein. Sur Montpellier, on se les partage, 3 000. 2 000 pour moi, 1 000 pour toi, non, c'est ça? Ah oui, il faut garder l'historique, hein, Richter. Non, lui ou moi, c'est pareil. Donc, 3000 personnes, je me dis, ça vaut la peine d'être poussé par le Saint-Esprit, d'être rempli et conduit. Je pense à Ézéchiel dans l'Ancien Testament, quand il a la vision de l'idolâtrie dans le temple. Oh, j'aime cette image quand il est dit, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Oh purée, pour ceux qui en ont encore dit. Dieu par son esprit est à l'œuvre, il le saisit par les cheveux de la tête. Il enlève, il le transporte, il lui montre, il lui révèle les choses. Je me dis, Seigneur, dans ta grâce. Oh, c'est au-delà de l'image, comprenez. La puissante et bienheureuse action de Dieu pour nous accorder de révélations plus grandes, pour nous permettre d'être dans l'œuvre qu'il nous a préparée. Je me dis des fois, heureusement, Seigneur, que par ta puissance, tu m'as bousculé, que par ta puissance, tu m'as permis de réaliser qu'il fallait que j'y aille quand même et que j'y fasse face. Sinon, aujourd'hui, nous en serions où, sinon ? Nous nourririons des regrets. On serait frustré, amer, parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas fait ce qu'on était convaincu qui était juste d'être fait. Et que Dieu nous y aide les uns et les autres. Le troisième et dernier point que je veux déposer dans votre cœur, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4 que nous trouvons cette troisième particularité. Il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et là le verbe est simple, il fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable, amené, poussé, conduit. Conduit, c'est un petit peu différent d'amener. Amener, je vous disais tout à l'heure que le grec, c'était anago. Là, conduit, c'est ago. C'est le suffixe du premier, c'est-à-dire la deuxième partie de la définition du mot. Ago, qui veut dire amener avec soi. Comprenez. Mener en tenant en laisse. Ça vous choque, ça ? C'est valable pour un animal. On mène un animal en le tenant en laisse. C'est diriger, c'est aller, c'est partir. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est mener en tenant en laisse. D'une certaine manière, c'est celui qui tient la laisse, qui donne la direction dans la marche. Oui ou non ? À part que vous ayez un chien qui soit plus fort que vous et que vous suiviez comme ça, là. Normalement, c'est le maître qui impose la cadence, non ? Doucement, va pas là. On le fait ou on ne le fait pas ? Non pas que je veux vous comparer à un chien, c'est pas ça. Hein ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais comprenez l'image, en tout cas. L'image, elle est là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène. Et nous, parfois, on est là. Viens ici, bourricot. Non, viens ici. Et des fois, il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Que Dieu nous aide à pas trop résister, parce que quand on résiste, en général, c'est souvent à nous-mêmes qu'on fait du tort. Hein, et oui, mais qu'avec la grâce de Dieu, on soit sensible à tout ça. Je vous parlais tout à l'heure de Paul qui avait été empêché. Mais on le retrouve dans Actes 16, verset 6, quand il veut partir de Lystre, de Derbe, d'Icône, et qu'il veut, à ce moment-là, retourner voir un petit peu les frères et sœurs, il est dit ceci, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit. » Ah, des fois, ce n'est pas que le diable, hein. Et ce n'est pas que les hommes non plus, hein. Des fois, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous résiste, qui nous empêche, qui nous fait barrage. Eh bien oui. Nous, ça nous arrange plus pour notre conscience, que ce soit le diable ou que ce soit les hommes. Comme ça, au moins, on ne se remet pas nous-mêmes en question. C'est ce que j'appelle, moi, se déresponsabiliser. Non, c'est aussi l'Esprit de Dieu, des fois, qui nous résiste, qui nous empêche, qui nous bloque. Parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Parce qu'on ne le laisse pas conduire nos vies comme on devrait le laisser conduire. Alors, il les empêche. Et regardez, il les empêche d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Mais en Asie, ils n'avaient pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, ils sont empêchés. Alors, il y en a certains, ils mettent en avant le fait que ce qu'ils vont faire, c'est bien parce que justement, on annonce, parce que ceci, parce que cela. Mais ça, ce n'est pas pour autant qu'il y a l'approbation de Dieu. Ben oui, hein. Il faut être réaliste quand on lit les Écritures. Souvent, on est simpliste, nous, ou réducteur dans ce qu'on... ou caricatural dans ce qu'on va interpréter de notre vie avec Dieu. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer en Asie, il traverse la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, vous voulez y rentrer. Alors la Mysie, c'est le côté un petit peu de, juste avant, en dessous de Troas, sur la gauche, là. Il voulait y rentrer là. Non, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et ils descendirent à Troas. Alors comment ça s'est passé qu'ils se trouvent à Troas? Il y a des choses qui m'échappent. Je crois que dans les éléments, eh bien, Dieu a fermé tellement les portes qu'ils n'avaient qu'une orientation à prendre, c'est celle de se retrouver à Troas. Et c'est à Troas qu'il aura la vision du Macédonien et qu'il passera en Grèce. Vous voyez, des fois, restons humbles, il y a des fois on croit être dirigé, on croit être dans notre bon droit, mais il faut reconnaître que des fois aussi, et souvent on se trompe, et que l'Esprit de Dieu nous conduit là où on devait être, dans ce qu'on devait faire. Et l'œuvre de Dieu va beaucoup plus loin que ce qui était imaginé les uns et les autres. Alors, en pensant à cela, je veux quand même terminer ce matin en vous disant que c'est vraiment un impératif d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas optionnel, c'est un impératif. Mais aussi, c'est un impératif d'être conduit par l'Esprit de Dieu, rempli et conduit, afin d'être efficace dans son œuvre. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Quand je pense à ça, je me dis quand même, nous avons dans la personne de Jésus un exemple majeur. Et nous avons un exemple aussi dans l'apôtre Paul. Nous avons un exemple dans tous ces hommes et ces femmes qui, conduits par l'Esprit de Dieu, ont fait l'œuvre de Dieu. Permettez qu'on courbe nos fronts et qu'on termine ces moments par la prière. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles que par ton esprit, tu veux nous amener, nous conduire, tu veux nous pousser. Parfois, nous manquons de sensibilité. Parfois, nous oublions l'invitation même que tu nous as adressée. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que nous ayons tous soif, de plus en plus, et que tu puisses nous remplir de toi jusqu'à toute la plénitude, Seigneur, afin que nous puissions aller de l'avant, te laissant conduire nos vies, diriger nos cœurs, pour que nous soyons à la hauteur du grand salut que tu nous as accordé, croyant que tu as préparé d'avance pour nous des œuvres, afin que nous les pratiquions. Alors, par ton esprit, conduis l'Église qui est à la Mosson. Conduis mes frères et mes sœurs d'une manière individuelle. Arme-les, équipe-les, et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.